Chers frères et sœurs, il y a quelques années, un film titrait « Il faut sauver le soldat Ryan ». Vous vous souvenez peut-être de l'intrigue. Plusieurs frères avaient été oxy dans le combat. Et puis le dernier frère, il fallait le sauver pour qu'au moins sa maman ait la consolation d'avoir un de ses fils avec elle. Le champ de bataille risquait de l'absorber complètement et de l'anéantir. Eh bien aujourd'hui, on peut dire que l'ascension, c'est une manière de sauver le Christ. Non pas de le soustraire au champ de bataille de ce monde, il y est jusqu'à la fin, mais de le soustraire finalement à nos propres cœurs, à toutes les réductions qu'on voudrait faire peser sur lui pour le mettre à notre niveau, à notre portée. Et j'en évoquerai trois. D'abord, l'ascension fait échapper Jésus à un Jésus qu'on pourrait dire trop mondain. Jésus ressuscité doit partir de la terre, doit quitter le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde ? Eh bien, le monde, c'est une espèce de grand théâtre où les choses apparaissent et disparaissent. Elles n'ont qu'un temps. La figure de ce monde passe, nous dit saint Paul. Alors voilà, plus on apparaît dans ce théâtre, plus on y est éphémère et plus vite on disparaît. Jésus ne fait pas partie de ce monde-là. Alors nous voudrions, nous, que Jésus soit un peu quand même de ce côté-là. On voudrait qu'il établisse son règne terrestre, qu'on puisse le toucher, le voir. Ben, on dirait oui, Jésus, il est bien là, on s'en rend compte. Est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Demandent les apôtres. Eh bien, cela signifie pour les apôtres d'identifier le Christ à quelque chose de palpable, de visible, qu'on peut mesurer. Alors pour nous, ce ne sera pas la même question, mais ce sera peut-être des nostalgies. Dire à telle époque, ah ben Jésus, il était plus présent dans notre monde. Alors ça va être Constantin, ça va être le Moyen-Âge, ça va être l'époque de saint François d'Assise. On aura chacun nos préférences. Mais quel danger ! On va oublier une relation vivante. Maurras admirait la chrétienté, mais il était athée. Voilà. Attention à chaque fois où nous oublions cette relation vivante et où nous privilégions une perception trop sensible et à notre mesure du règne de Dieu, une perception trop mondaine. Car Jésus ne se manifeste plus dans le monde aujourd'hui, mais son espace, c'est la vie intérieure. Sans vie intérieure, pas de perception de Dieu. Et peut-être que le plus grand des dangers, c'est une foi sans vie intérieure. Parce que c'est cela qui donne naissance à tous les fanatismes. Vous savez bien, il y a des religions qui condamnent la vie intérieure, le mysticisme. Alors, elles ne peuvent plus penser à la manifestation de Dieu qu'en termes de pouvoir, d'occupation d'espace, de conquête. Attention, nous ne sommes pas exempts de cette tentation. Oui, il faut revenir à cette vie intérieure et nous défier de ce qui est trop extérieur. Je me souviens, je le cite mal, mais d'une citation de Jean Chrysostome qui disait « Plus il y a d'apparence, moins il y a de réalité. » Et on le voit bien, c'était la hantise des saints d'échapper finalement au théâtre du monde. Les pères du désert, ils étaient si avares de paroles. Ils ne voulaient pas rentrer dans les babiles superficielles, les conversations qui n'en finissent plus. Souvenez-vous aussi peut-être de notre père Lamy, à l'humilité si farouche. Il fallait plutôt le prendre dans le sens du poil, sinon on risquait de se prendre une volée de bois vert. Et puis, notre cher pape François, qui nous met en garde contre la mondanité. Alors peut-être qu'il a la préoccupation que les budgets du Vatican n'explosent pas en petits fours et en cocktails, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est qu'il a le sentiment que la qualité de vie intérieure est affectée quand on promène trop le mannequin, comme disait notre père Jean, quand on vit trop à l'extérieur. Vivre caché avec le Christ en Dieu, nous dit saint Paul. Chers frères et sœurs, cela n'a que trop d'actualité, une actualité criante. Notre monde voyeur est une machine à faire en sorte que nous nous exposions. Regardez Facebook, on va vous tirer les vers du nez. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser ? Quel est votre dernier événement ? Je ne dis pas qu'il y a des bonnes choses dans tout cela. Mais à force d'apparaître, on risque fort de ne plus être. Et il y a des jeunes, des adolescents qui s'en rendent compte et qui disent « Non, moi j'en veux pas de ça. C'est un trop gros piège. Cela est juste comme attitude. » L'ascension va aussi nous préserver de voir le Christ comme un Jésus sucre d'orge, un petit bonbon contre les tristesses passagères. Finalement, si on voit bien, c'est un peu l'attitude des apôtres. Ils restent les yeux tournés vers le ciel. Heureusement que les anges viennent leur dire « Allez, au boulot, c'est pas là que vous devez être. » C'est la tentation de saint Pierre au moment de la transfiguration, que c'est bien que nous soyons ici, dressons trois tentes. Les apôtres ont du mal à accepter la séparation. Ils voudraient que la présence du Christ ne soit que gratification, plaisir, agrément. Elle me fait du bien. Eh bien, cela est faux. Et une réflexion d'élève m'a beaucoup fait progresser aussi intérieurement. Il nous arrive de faire des missions dans les lycées et nous donnant notre témoignage. Et certains nous disent « On a l'impression que Jésus est intervenu dans votre vie quand vous n'alliez pas bien pour que vous alliez mieux. Et moi, si je vais bien, j'ai pas besoin de lui. » C'est vrai. Ils ont raison. Jésus n'entre pas dans notre vie pour nous donner des solutions ou des agréments. C'est beaucoup trop simpliste. Il entre parfois dans nos vies pour y amener des épreuves, des problèmes, pour ôter des gratifications. Il n'est en rien le prolongement de mes désirs. Car il vient creuser en moi une soif plus profonde et parfois inconfortable. Il va, pour le dire autrement, il va m'éveiller à une dignité dont je dois payer le prix. Alors ce n'est pas très vendeur, ça c'est vrai. Mais c'est ce que les anges disent aux apôtres. Le ciel définitivement n'est pas sur la terre et malheur à qui veut le ciel sur la terre. Regardons, écoutons plutôt saint Matthieu, cette finale, cette belle finale que nous avons lue dans l'Évangile. Que dit Jésus ? Allez, allez enseigner, allez prêcher. Que fait Jésus avec ce petit mot de « aller » ? Il fait référence à tout son discours missionnaire, qui est pour le moins qu'on puisse dire très inconfortable. Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Voilà, mais le Seigneur poursuit en disant « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Si nous nous dérobons à cet aller, nous risquons fort de perdre la présence de Jésus, de perdre la douce joie d'évangéliser, comme dit le pape François. Malheur à moi si je n'évangélise pas, dit Paul. Malheur, parce qu'alors je suis séparé de mon unique bien, le Christ. Vous vous souvenez peut-être de cette prière de Mère Teresa. Jésus est cette parole qui nous est dite. Jésus est ce consolateur. Jésus est ma nourriture. Mère Teresa dit pas du tout cela. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Jésus est la parole à dire. Jésus est la lumière à diffuser. Jésus est le pauvre à nourrir et non pas d'abord celui qui me nourrit, si je puis dire. Jésus est l'aveugle à qui il faut montrer le chemin. Jésus est celui qui est nu que je dois vêtir. » Voilà, s'il n'y a pas cette action, eh bien Jésus n'est pas là. Alors il ne faut pas trop caricaturer, mais le lieu de rencontre du Christ dans notre monde, c'est le lieu du combat et le lieu du dévouement. Un dernier point, l'ascension préserve le Christ de n'être enfin qu'un petit Jésus portatif et personnel. Un petit Jésus qu'on pourrait emporter avec soi un peu partout, en voyage, selon ses besoins. Alors on a des petites icônes de voyage, c'est très bien, mais attention, ça ne dit pas tout du Christ. Car Jésus a besoin de l'Église pour se donner. Faites attention, quand on lit l'Évangile, il dit « Je suis avec vous ». Il ne dit pas « Je suis avec toi, Jean, je suis avec toi, Thomas, je suis avec toi, Pierre. » Non, il dit « C'est au milieu de vous que je suis présent, au sein même de la communauté. C'est là que nous avons accès au Christ. Mais ta vie, que de l'Église et de Jésus, c'est tout un, disait Jeanne d'Arc. » Saint Paul dit dans notre deuxième lecture, « Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. » Alors, pas de contact avec la tête si je ne m'agrège pas au corps qui est l'Église. L'Église, c'est Jésus communiqué. Et attention, priver la communauté de la possibilité de se rassembler, eh bien, c'est aussi la priver du contact avec son Seigneur. Soyons-y attentifs. Les persécutions en Russie, en Union soviétique, ne se sont guère attaquées à la piété personnelle, mais aux manifestations publiques. Pour faire comprendre ceci, peut-être l'état d'esprit dans lequel nous risquons de rentrer, une petite anecdote de scientifique. La grenouille, mise au contact de l'eau bouillante, va bondir immédiatement pour y échapper. Mais si on la met dans l'eau froide et qu'on chauffe petit à petit l'eau, eh bien, elle ne va pas sentir monter la température. Elle va finir par s'ébouillanter parce que sa sensibilité peu à peu s'est émoussée. Où en sommes-nous d'une sensibilité qui voit justement que des conditions d'accès du Seigneur à nous-mêmes ne sont plus respectées. Voilà, juste une vigilance. Mais réclamer de pouvoir nous réunir ne sert à rien si nous ne veillons pas à l'unité des cœurs, à une unité qui embrasse l'humanité tout entière. Alors qu'aucun sentiment de rancune mal placé contre ce que certains appellent les ennemis de l'Église, qu'aucune aigreur ne vienne altérer en nous les traits du ressuscité que désormais nous avons la mission de manifester. Que Marie, Notre-Dame du Célacle, nous y aide.